Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tous Handicapés. Je vais aujourd'hui vous parler d'autonomie et d'éthique. Favoriser l'autonomie, une formule qu'on a l'impression d'entendre tous les jours dans le milieu de la santé. Mais vous allez voir que ce terme est souvent employé à tort, sorte d'abus de langage. L'autonomie, c'est la capacité à se gouverner soi-même, en toute liberté. Autrement dit, la personne autonome peut décider de faire ou ne pas faire quelque chose. L'autonomie est donc différente de l'indépendance, qui est la capacité à se mouvoir, à faire des choses par soi-même. Par ces deux définitions assez simples, on voit bien la différence entre les deux et à quel point le terme d'autonomie est trop souvent utilisé. Pour comprendre plus facilement, je vais vous donner quelques exemples. Une personne autonome et indépendante, c'est quelqu'un comme vous et moi, qui a toutes ses capacités, qui peut faire à peu près tout ce qu'il veut dans la vie. L'autre extrême, c'est la personne hétéronome et dépendante. Là, pour parler vulgairement, c'est un légume. Bon, j'abuse un peu, mais c'est vraiment la personne qui peut plus rien faire, qui ne peut plus s'exprimer et décider de rien. Exemple, quelqu'un dans le coma ou qui est vraiment en fin de vie. Maintenant, la personne autonome, mais dépendante. Là, c'est typiquement l'exemple du personnage de François Cluzet qui est en fauteuil dans le film Intouchable. Il peut décider de tout, mais à part ça, il ne peut presque rien faire, et le personnage d'Omar Sy fait tout physiquement à sa place. Et enfin, la personne hétéronome, mais indépendante. Là, c'est par exemple une personne qui souffre d'une maladie d'Alzheimer assez avancée. Elle est incapable de décider de quoi que ce soit, ne sait plus initier ou faire les choses intellectuellement parlant, mais physiquement, si, elle peut réaliser les tâches qu'on lui dit de faire. Ces exemples donnés, j'ai encore une nuance à apporter. Quand on parle d'indépendance, entendons-nous bien, on ne peut pas être à 100% indépendant. Bah oui, même nous qui pouvons par exemple conduire sans problème, on est dépendant du fabricant de voitures qui nous aura construit notre bolide, ou bien de la station qui nous aura approvisionné en essence. Et si vous poussez le raisonnement jusqu'au bout, on est de toute façon tous dépendants de la planète pour respirer et pour vivre. Bon, ça c'était pour le petit message écolo. Check. Bref, vous avez compris l'idée, le concept d'indépendance à 100% n'existe pas vraiment. Et on est même tous interdépendants. Et le message humaniste, c'est fait aussi. Allez. Bon, revenons maintenant à l'autonomie. Par contre, je vous préviens, je risque de digresser un peu, mais vous commencez à avoir l'habitude. L'autonomie, c'est donc la capacité à se gouverner soi-même. La capacité à se gouverner soi-même, de sa plus tendre enfance jusqu'à la mort. Si l'on est complètement autonome, on pourrait donc, en théorie, choisir sa mort. Vous voyez que le débat sur l'euthanasie n'est pas loin, mais pour certains, c'est un sujet délicat. C'est vrai, en fait, c'est dérangeant d'envisager la mort, sa propre mort ou celle d'un proche. Mais sous couvert de l'autonomie, pourquoi ne pourrait-on pas choisir de sa mort ? Je ne cherche là à convaincre personne du bien fondé de l'euthanasie ou non. Ce que j'aimerais, c'est que chacun s'interroge, déconstruise ce qu'il croit savoir, questionne ses préjugés et sa morale. Justement, la morale. C'est l'ensemble des règles de conduite qui sont considérées comme bonnes de façon absolue dans une société. C'est ce qui permet de différencier le bien du mal. Mais à chacun sa morale, car nous n'avons pas tous la même conception de ce qui est bien ou non. La morale est subjective. L'éthique, c'est l'interrogation morale. C'est se questionner pour savoir ce qui est bien ou non en tenant compte de tous les pour et contre de chaque situation. L'éthique, c'est remettre la morale en question à tout moment. Est-ce que les règles morales établies sont toujours bonnes ? L'éthique, c'est donc une posture mentale, un esprit toujours ouvert, en alerte et qui s'interroge. La question de l'euthanasie dont je vous parlais juste avant, c'est un débat éthique. Ça questionne clairement nos valeurs et notre rapport à la mort. Pour vous donner un autre exemple, imaginez. Vous travaillez comme moi, en EHPAD, dans une unité Alzheimer, avec des gens qui n'ont plus vraiment toute leur tête. Ils ne se rendent plus vraiment compte de ce qui est bien ou mal, et pour certains, leur vie n'est plus gérée que par leurs émotions et leurs pulsions. Je vois un truc triste, je pleure. J'ai faim, je pique tout ce que je trouve pour manger, etc. Maintenant, imaginez qu'en entrant dans la chambre d'un résident, vous tombez sur une dame, pourtant encore mariée, qui est en train de faire sa petite affaire avec un autre résident du service. Comment vous réagissez? Vous les séparez tout de suite? Bah oui, mais ils ont envie et ils sont tous les deux consentants. Ouais, mais elle est mariée. Bon bah, on prévient son mari alors. Vraiment? Ça va pas faire plus de mal qu'autre chose? Bref, vous avez compris l'idée. Autre exemple encore. La santé peut être un milieu impitoyable quand il s'agit du matériel médical. Alors, je ne vais pas faire de généralité, et ce que je vais vous raconter là n'est qu'un exemple isolé. Il faut savoir que dans l'EHPAD où je travaille, je suis donc amené à collaborer avec des prestataires de matériel médical, pour équiper les chambres des résidents, gérer les fauteuils roulants, etc. Et donc un jour, j'ai dû gérer le cas un peu particulier d'un résident. Chez lui, il avait l'habitude de se déplacer avec un petit scooter électrique. On a essayé de le faire venir dans l'EHPAD, mais vu la taille de l'engin, c'était pas vraiment pratique. Mais ce monsieur avait du mal à se déplacer dans un fauteuil roulant manuel. Il a donc voulu s'acheter un fauteuil roulant électrique. Moi, n'ayant jamais eu à mener ce genre de projet, je me dis « chouette, ce sera une belle expérience ». En revanche, face à ce monsieur parfois impulsif et pas toujours en possession de tous ses moyens, j'essaye de cadrer un peu les choses, en lui expliquant que ça peut être en partie financé, que ça pourrait peut-être se faire à la location, histoire que ça coûte moins cher. Bref. Il n'a pas voulu attendre et a tanné sa famille qui a fini par céder et l'emmener acheter un fauteuil directement chez un revendeur à Blois. Évidemment, pendant toute cette partie-là, j'étais pas du tout au courant de ses démarches. Nos résidents ont tout de même le droit de faire des choses par eux-mêmes. Vive l'autonomie! Mais en arrivant chez le prestataire, il a bien précisé qu'il venait d'un EHPAD, dans lequel il y a un ergothérapeute. Moi. Vous croyez que le gars m'aurait appelé pour vérifier si tout était OK? Bah, pourquoi faire? Faisant fi de la fragilité de mon résident et de mes éventuelles préconisations techniques pour son bien-être, le gars lui a vendu un fauteuil roulant électrique flambant neuf, sans demander son reste. 3 500 €. Ah bah, ça rapporte les anciens, hein. Si vraiment je voulais aller loin, on pourrait appeler ça de l'abus de faiblesse. Le pire, c'est que le fauteuil est resté bien au chaud dans la chambre et que le monsieur ne l'a malheureusement jamais utilisé jusqu'à son décès quelques mois plus tard. En même temps, pour 3500 balles quand même, business is business, hein. Alors, on va me dire que c'est son métier. Il doit bien faire des ventes à un moment donné. Oui, mais pas dans ces conditions. Parce que si vraiment on veut parler cash, le marché des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, il est intarissable. Et du matériel médical, on en aura toujours besoin, faut pas se leurrer. Donc ça lui coûte quoi d'avoir un vrai accompagnement professionnel plutôt qu'un comportement de simple commercial quasiment dénué de toute humanité? Je ne veux pas empêcher les prestataires de faire leur métier et de vendre leur matériel. Mais vu le marché que ça représente, je pense franchement que ça pourrait être fait en respectant certains standards d'éthique et de déontologie. Bref, soyez éthique, profitez de votre autonomie, développez votre esprit critique. Tout n'est pas bien ou mal, ou noir ou blanc. Arrêtons d'être manichéens. Alors ça fait un peu discours démago ou utopique, mais mettons un peu de nuance dans nos réflexions. Pour suivre cette chronique, je voudrais vous parler d'un sujet épineux, le Covid. Bah oui, il fallait bien y passer. On est une majorité de personnes autonomes, qui avons la capacité de décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut décider de tout pour les gens qui n'ont plus toute leur tête. En tout cas, il faut le faire de manière éthique. Mais pour les gouvernants de notre pays, qui gouvernent donc pour les autres et plus simplement pour eux-mêmes, leurs décisions vont être confrontées à la morale de l'ensemble de la population. Ce sont eux qui déterminent ce qui est bien ou mal dans le pays, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, etc. Le droit, justement, c'est ce qui est conforme à une règle morale. C'est ce qu'on peut se permettre de faire parce que c'est bien. Le devoir, c'est une obligation, ce qu'on doit faire au regard de la loi ou de la morale. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens parler et revendiquer leurs droits, plutôt que leurs devoirs. Peut-être un peu trop dans le milieu du travail d'ailleurs. Mais on a vu que la morale est subjective. Une obligation, et donc un devoir, qui ne correspond pas à nos valeurs morales, c'est difficile à accepter, puis à respecter. Donc, quand on nous impose des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, on a du mal à les accepter et à les respecter. Comme un confinement, un couvre-feu ou une vaccination, par exemple. Vous voyez où je veux en venir ? Sans donner mon avis sur la question, elle mérite d'être posée. Est-ce que chacun ne pourrait pas avoir le choix de se faire vacciner ? Que cela reste un droit plutôt qu'un devoir ? Par contre, attention, ça pose la question de la protection des plus fragiles contre le virus. C'est un sacré débat éthique quand même. Et si quelqu'un choisit de ne pas se faire vacciner, il faudra au moins qu'il respecte strictement les gestes barrières, et peut-être qu'il assume d'autres conséquences de sa non-vaccination. Doit-il avoir le droit d'accéder à tous les milieux professionnels, comme le milieu de la santé ? Et qu'en est-il de l'ensemble des lieux de culture et de loisirs ? Peut-être pourrait-il avoir accès à certains lieux et pas d'autres ? Certains penseront que de toute façon il faut décider à la place des Français, parce qu'ils sont trop têtus et bornés pour pouvoir décider par eux-mêmes. La question ne se pose même pas. Et peut-être qu'ils ont raison. En revanche, je trouve que se faire un faux pass sanitaire pour aller en boîte et faire courir un risque aux autres, ça c'est pas très éthique. Alors, attention, hein, je ne fais pas l'éloge du refus de vaccination, et je ne suis évidemment pas anti-vaccin. En revanche, je pense qu'on peut légitimement critiquer certaines décisions prises et surtout la communication qui est faite autour de la crise. À travers les différents spots publicitaires qu'on a vus passer et qui faisaient du vaccin un remède miracle pour tous nous retrouver, je trouve que c'était un peu abusé. Mais c'est pas le pire. Ne pas donner l'accès aux masques aux soignants en EHPAD en début de crise, alors qu'on ne savait rien sur les conséquences de ce virus, et un an et demi plus tard, les obliger à se faire vacciner pour protéger les résidents, pour le coup, avouez que c'est plutôt contradictoire. Voir M. Véran, ministre de la Santé, annoncer fin 2020 en direct sur TF1 que la vaccination ne sera pas obligatoire pour aller au restaurant, par exemple, je trouve ça au mieux imprudent, au pire irresponsable, au regard de l'incertitude de la situation fin 2020. Dernier exemple d'une communication pour moi franchement critiquable. Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, est mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et cible de plusieurs milliers de plaintes pour mauvaise gestion de la crise. Alors, cette dame n'est évidemment pas la responsable de la crise sanitaire et elle ne mérite pas tout ce qui lui arrive, loin de là. Par contre, en tout début de crise, quand personne ne se doutait des effets de ce virus, dire que le port du masque est, je cite, « totalement inutile » pour les personnes autres que les contaminées, pardon madame, mais c'était pas très prudent de votre part. En général, on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je ne dis pas que j'aurais mieux géré la crise sanitaire que le président Macron et son gouvernement, loin de là. Et j'estime qu'on s'en sort très bien comparé à d'autres pays. Sincèrement, si je suis de toute façon content d'être français quoi qu'il arrive, je suis d'autant plus content d'avoir été français ces deux dernières années, et pas d'avoir vécu aux États-Unis ou au Brésil avec des non-gestionnaires aussi catastrophiques que Trump ou Bolsonaro. Pourtant, certaines des décisions du gouvernement français en début de crise étaient largement discutables. Parfois, je crois que c'est pas mal de faire preuve d'humilité, de dire « on ne sait pas », de se montrer plus prudent que de pas assez. Bon, on va évidemment pas refaire l'histoire, et encore une fois, on s'en sort très bien par rapport à d'autres. Mais la communication qu'on a subie depuis 2 ans, je ne sais pas. Une phrase qu'on a entendue trop peu souvent dans la bouche des gens, y compris dans celle de nos dirigeants. Je suis peut-être naïf, mais je pense qu'en étant un peu plus sincère dans sa communication, en étant un peu plus transparent avec les gens, le gouvernement pourrait recueillir une meilleure adhésion de la population. Après, c'est une autre façon de gouverner, et certains d'entre eux, qui sont clairement élitistes, voudront maintenir un système comme celui-là. Et puis je sais, en tant que dirigeant du pays, il faut savoir rassurer la population, tout ça, tout ça. Mais dans un pays comme la France, je pense qu'on peut expliquer clairement les choses aux gens, leur dire « Ok, on ne sait pas à quoi on va faire face, notre choix, c'est d'être prudent. Donc on va confiner, on va mettre en place un couvre-feu, vaccinez-vous, etc. » Après, on peut discuter des choix de gestion qui sont faits. Mais au moins, la communication est bien plus claire et honnête. Donc, arrêtons de prendre les gens pour des imbéciles. Expliquons-leur clairement l'intérêt des gestes barrières, de la vaccination. Forcément, les antivax et les complotistes, on ne pourra rien pour eux. Mais les autres, la majorité des gens qui en ont marre qu'on les prenne pour des cons, ceux qui sont clairement en mesure de comprendre ce qu'on leur explique, quand bien même ils ne seront pas d'accord avec toutes les décisions prises, au moins ceux-là, on peut les mobiliser, les fédérer et ne plus rien leur imposer. Ils mettront en application d'eux-mêmes les lois. Et d'une population à qui on parle de devoir comme obligation, on passera au devoir par responsabilité. Ce serait un sacré changement dans notre société, ça, non ? Alors, je suis très naïf peut-être, et évidemment qu'il y a des sujets pour lesquels on pourra moins laisser le choix aux gens. Mais pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, ça me semble un peu plus éthique de montrer aux gens l'intérêt qu'ils ont de changer, que de leur imposer un changement en ayant une communication au mieux floue, au pire mensongère. Plutôt que d'obliger au changement, laissons le droit de décider, tout en montrant les intérêts du changement. Bref, je vais vous épargner le fameux slogan de François Hollande, mais vous avez compris l'idée. Je sais qu'on est dans une période dans laquelle on se dit « à quoi bon ? On ne peut pas changer le système, que sais-je » Et quand bien même je ne suis pas forcément plus optimiste que vous pour la prochaine élection, soyez au moins éthique entre vous, ouvrez vos esprits, développez votre sens critique. Faites en sorte de ne plus compter sur les décrypteurs pour vous dire ce que vous devez comprendre. Ne comptez plus sur les politiques pour vous dire ce que vous devez penser. Lisez, réfléchissez, soyez exigeants envers eux, mais aussi envers vous. Et surtout, prenez soin de vous.